La Bible dit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, au verset 20, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On peut aujourd'hui être mécontent devant Dieu, mais ça ne changera pas le fait que Dieu soit Dieu. Le monde dans lequel nous sommes est un monde rempli de rébellion. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Si Dieu existe, pourquoi le vol? Pourquoi les guerres si Dieu existe? Bien-aimés, toutes ces interrogations que nous pouvons nous poser, quelquefois même pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, ne changera pas le fait que Dieu soit Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas tout ce qui se passe que Dieu ne sera plus Dieu, bien-aimés. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas le processus qui fait qu'un avion vole, qu'on ne montera pas dans l'avion ou que l'avion n'arrivera pas à destination. Ce n'est pas parce que nous nous sommes limités que ça changera la nature de Dieu ou ça changera la conception de Dieu, bien-aimé. Dieu est tel qu'il est et ça, personne ne peut le changer. Et nous pouvons nous rebeller, nous pouvons être en colère vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons être en colère par les injustices que les hommes nous font subir. Bien-aimé, ça ne changera pas le fait que Jésus-Christ est Seigneur au siècle des siècles. C'est en vain que nous combattons contre Dieu. Lorsque David s'est présenté devant Goliath, il a dit, ce n'est pas une question d'épée ou de lance. Il dit, Goliath, tu viens devant moi avec l'épée et la lance. Tu viens en m'injuriant par tes faux dieux. Il dit, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Car ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à Dieu. Ce n'est pas une question de confrontation, puisque la victoire appartient à Dieu. Lorsque l'on pense à Dieu, on pense que c'est un Dieu victorieux, ça fait partie de ses caractéristiques et ça, personne ne peut le changer. Donc, à quoi ça sert de combattre devant une personne lorsqu'on sait que le combat est déjà perdu pour nous, bien-aimés? Et l'homme s'est embarqué dans une confrontation vis-à-vis de Dieu pour laquelle il a déjà perdu d'avance. Mais la rébellion fait, l'orgueil fait que l'homme refuse de s'humilier et de céder tout simplement dans les choses telles que Dieu les a établies. On peut se rebeller aujourd'hui, bien-aimés, comme on l'entend beaucoup dans les églises, parce qu'il y a tellement de faux serviteurs, il y a tellement de faux pasteurs, alors je préfère rester à la maison. Bien-aimés, rester à la maison, ça, ce n'est pas la conception de Dieu. Dieu a établi des bergers, il a établi des pasteurs, il a établi des églises. Donc même si l'église aujourd'hui dans laquelle tu te trouves, tu la considères comme fausse, sache qu'il y a des églises qui sont dans la vérité. Et ce n'est pas parce que toi tu as jugé qu'il y avait des faux serviteurs que le Seigneur arrêtera de conduire des églises, que le Seigneur arrêtera d'élever des pasteurs bien-aimés. Ce n'est pas parce que notre conception va à l'encontre de Dieu que Dieu va changer tout son système à cause de toi. Bien-aimés, détrompons-nous. Dieu ne va pas changer la vie, il ne va pas changer les fondements qu'il a posés tout simplement pour satisfaire la volonté d'un homme. Lorsque les fondements sont ébranlés, bien-aimés, c'est que toute la bâtisse aussi va finir par s'ébranler. Lorsqu'on parle de fondement, on parle de socle. Le fondement, c'est ce qui soutient tout ce qui vient après. Mais si tout ce qui vient après est soutenu par un fondement, bien-aimés, réfléchissons, retirons ce fondement-là. Qu'est-ce que sera toute la bâtisse qui a été construite? Elle va aussi s'écrouler. Ça veut dire que le jour où le Seigneur va ébranler ses propres fondements que lui l'a posés, le jour où le Seigneur va détruire ses propres fondements, bien-aimés, soyons certains qu'aucun d'entre nous ne vivra encore aujourd'hui. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Or, le fondement de la terre, le fondement de l'homme, c'est la parole de Dieu qui soutient toutes choses. C'est par sa parole que Dieu a créé et c'est par sa parole que Dieu peut détruire aussi la création. Nous lisons la parole dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 25. Proverbes 20, verset 25. La Bible dit, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. » Combien d'hommes aujourd'hui se sont retrouvés dans le propre trou qu'ils ont creusé? Lorsque nous prenons des engagements tels que même le monde nous l'enseigne, tu vas signer un contrat de travail. Tu n'as pas lu certaines clauses, peut-être qui étaient écrites en petit. Tu soustrais un crédit sans avoir lu totalement le contrat. Tu mets ta signature. Et c'est quelques mois après, quelques semaines après, où la date qui nous permet quelquefois de nous rétracter est déjà passée. Et tu te rends compte que tu as signé quelque chose qui va t'emmener dans des problèmes. Alors, qui est à l'origine, finalement, de ce piège maintenant dans lequel tu es entrelacé? C'est de notre faute, parce que nous avons négligé. Nous n'avons pas calculé, nous n'avons pas réfléchi sur l'engagement que nous devions signer. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des problèmes. Et beaucoup, bien-aimés, aujourd'hui sont déçus dans la vie chrétienne. Parce qu'ils sont venus peut-être en entendant que Jésus-Christ fait des miracles. Ils ont entendu que Jésus-Christ avait multiplié le pain. C'est le côté qu'ils ont entendu. Mais ils ont refusé d'entendre qu'il fallait aussi porter la croix. Ils ont refusé d'entendre qu'à partir d'aujourd'hui, quand on te giflera à droite, il faudra donner à gauche. Ils ont refusé d'entendre qu'il faudra partager son pain. Ils ont refusé d'entendre que Dieu l'éprouvera. Ils ont cherché le bon côté, ils ont signé le contrat et ils se retrouvent comme dans un piège. La vie chrétienne devient trop difficile. La vie chrétienne devient trop compliquée. Dans le monde, bien-aimé, nous voyons lorsque certaines personnes s'embarquent dans des destinations sans prendre des précautions, de savoir peut-être là où ils vont être accueillis. Combien se retrouvent dans un pays étranger avec des problèmes parce que l'évaluation, parce que le calcul n'avait pas été, je dirais, correct, n'avait pas été fait profondément. Et ils se retrouvent dans un piège, ils se retrouvent dans des problèmes. La Bible nous exhorte, avant de nous engager, quelle que soit la chose, nous devons nous asseoir, réfléchir, méditer, pour ne pas que la décision que nous avons prise devienne maintenant un piège. Et dans le monde dans lequel nous sommes, il y a toutes sortes d'engagements que nous pouvons prendre, soit pour notre vie personnelle, soit peut-être pour nos enfants, soit au niveau du travail, et pour ceux qui ont connu Dieu, au niveau de l'Église. Mais toutes les décisions que nous devons prendre, les choix que nous devons faire, vont être influencés par les fondements qui ont déjà été posés. Si aujourd'hui une personne décide d'aller en mer, mais dans les fondements que Dieu a posés, il y a les conditions climatiques pour lesquelles un navigateur, pour lesquelles un pêcheur en mer doit prendre au sérieux. S'il se dit « je vais en mer » sans avoir étudié, sans avoir consulté la météo, sans avoir pris les précautions, il risque de se retrouver dans une tempête qui va l'emmener à mourir. Si nous négligeons tous les paramètres que Dieu a déjà établis, bien aimé, nous allons tout droit vers la mort. Et les paramètres que Dieu a établis, les fondements que Dieu a établis, on ne peut pas les changer, mais on ne peut que se soumettre et faire avec. Nous lisons Luc chapitre 14. À partir du verset 28, la Bible dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir » et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Voilà à ce que la Bible nous exhorte, bien-aimés. Lequel d'entre nous, s'il veut bâtir quelque chose, ne s'assied pas pour évaluer la dépense? Lequel de celui qui veut aujourd'hui construire une maison, faire les frais des réparations d'une maison ou d'une voiture pour lesquelles il va s'engager, ne va pas s'asseoir un instant pour évaluer premièrement les dégâts afin de pouvoir faire un calcul conforme à l'argent qu'il devrait dépenser? Et la Bible dit que ceux qui se comportent en insensé ne font pas cette réflexion. Ils s'engagent rapidement, ils commencent et finalement ils ne terminent jamais. Les fondements ont été posés, les briques ont commencé à être montées et il n'y a plus d'argent pour faire le toit. Et les gens passent et disent, mais celui-ci, il a voulu construire, pour quelle raison? Est-ce que c'était vraiment parce qu'il pouvait ou est-ce que c'était simplement pour montrer aux gens qu'il pouvait? Et il se retrouve aujourd'hui avec une maison inachevée parce qu'il n'a pas calculé à la dépense. Et pour calculer à la dépense, celui qui veut construire une maison, mais il devra calculer en fonction de son salaire. Il devra calculer en fonction du prix du ciment, en fonction du prix de la brique. Il devra calculer en fonction du prix de la main-d'œuvre. On ne peut pas faire un calcul sans tenir compte de toutes ces choses-là. Celui qui calcule la main-d'œuvre, il calcule peut-être le prix des briques et il oublie de calculer aussi le coût de la charpente, le coût des électriciens. Alors, il oublie toutes ces choses-là et lorsque la maison est terminée, selon lui, il voit qu'il n'y a pas d'électricité, il voit qu'il n'y a pas de toit. Parce que lorsqu'il avait préparé son projet, il n'avait pas tenu compte des autres paramètres nécessaires pour que la maison soit totalement finie. Alors aujourd'hui, les hommes veulent bâtir leur vie, veulent fonder leur vie, prennent des directions dans leur vie sans tenir compte de tous les paramètres que Dieu a posés lorsqu'il a créé la terre. On fait des projets sans tenir compte des lois divines. On fait des projets sans tenir compte de la volonté de Dieu. On met un petit peu de Dieu, un petit peu de nous et on essaie de faire un mélange. Bien aimé, Dieu ne fait pas de mélange. Ou bien Dieu est Seigneur de tout, ou bien il n'est Seigneur de rien du tout. On ne peut pas se contenter et Dieu ne peut pas accepter qu'on lui donne 90% et qu'on garde 10%. Ou bien on donne tout à Dieu, ou bien on ne lui donne rien. C'est pourquoi il dit, mieux vaut être froid plutôt que d'être tiède. Mieux vaut être froid ou bouillant. Au moins là, la position est claire. Mais être tiède, un peu de bouillant, un peu de froid, Dieu dit que ça, il le vomit. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait du mélange, il ne veut pas qu'il y ait un partage, mais il veut qu'il y ait une consécration totale. Et lorsque nous décidons de vivre bien-aimé, on doit tout donner à Dieu. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est nous entendre la vie chrétienne, ou même les païens tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, ils cherchent à vivre comme si Dieu n'existait pas. Ils fondent leur vie, ils fondent leur espérance sur leur propre intelligence. Ils font de leur espérance sur les conseils des traditions. Et en mettant Dieu de côté, bien aimé, on peut faire semblant que Dieu n'existe pas. Mais ça ne changera pas les réalités que Dieu a créées lorsqu'il a créé le monde. Les réalités, les fondements que Dieu a posés, personne ne peut les changer. On peut faire semblant que Dieu n'entend pas. On peut faire semblant que Dieu ne voit pas, bien aimé. Mais ça ne changera pas le fait que Dieu soit Dieu. Et cette négligence-là, cette ignorance consciente que nous faisons de la volonté de Dieu, un jour ou l'autre, elle nous rattrapera. Un jour ou l'autre, Dieu nous demandera des comptes, bien-aimés. On peut faire semblant de ne pas avoir entendu, mais sachons, bien-aimés, qu'un jour, pour tout ce que nous avons fait semblant de ne pas entendre, Dieu nous appellera en jugement. Quelle excuse aurions-nous? Je ne savais pas. Ou bien de se dire, j'ai le temps. Il y a des personnes qui font leur projet en disant, j'ai le temps. Je vais d'abord bâtir. Je vais d'abord faire ceci et ensuite je viendrai à Dieu. Bien-aimés, nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain. Et il y a une chose pour laquelle l'homme est très fort, c'est de faire ses projets en oubliant ou en faisant semblant de savoir que Dieu était souverain. Bien-aimés, la souveraineté de Dieu, personne ne peut la changer. On peut dire que Dieu n'existe pas, mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'existe pas. On peut vouloir se faire croire que Dieu n'existe pas, mais Dieu existe et il le prouvera un jour. Il a déjà prouvé, mais il le manifestera clairement un jour. Mais le jour où Dieu le manifestera, bien aimé, est-ce que ça sera trop tard? Le Seigneur nous donne l'occasion chaque jour qu'il nous donne de respirer, de nous amener à nous repentir, de reconnaître que nous ne sommes rien du tout, de reconnaître que ça ne sert à rien, de lutter devant Dieu. L'apôtre Paul a vu Jésus-Christ sur la route de Damas. Il était accompagné d'hommes. Il allait persécuter les chrétiens. Il allait arrêter les chrétiens. Mais lorsqu'il a vu Jésus-Christ, le Seigneur lui a dit, ça ne sert à rien de résister. Arrête de résister. Paul est tombé à genoux. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ça, les hommes refusent. de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Le Seigneur se dresse devant eux en permettant certaines difficultés dans leur vie pour qu'ils puissent reconnaître que là, je suis bloqué. Dieu, j'ai besoin de toi. Le Seigneur permet des événements difficiles dans lesquels les hommes sont appelés à s'humilier et de reconnaître qu'il n'y a pas d'issue et de crier à Dieu. Et au lieu de fléchir les genoux, comme Paul l'a fait, il reste debout, la tête droite, et de dire non, je vais y arriver, bien-aimé. Et ça, c'est une voie, bien-aimé, sans retour, c'est une voie avec une issue fermée. Tous ceux qui cherchent à se confronter avec Dieu finiront par se casser la tête contre le mur, bien-aimé. On ne peut pas changer les fondements que Dieu a posés. Nous lisons dans la Genèse, au chapitre 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et lorsque nous lisons la suite du chapitre, Dieu crée les étendues d'eau, Dieu va créer les animaux, va créer la végétation, va créer tout simplement tout ce qui vit sur la terre. Et il va, la Bible dit, placer, après avoir créé Adam, le placer dans le jardin afin qu'il puisse le cultiver. L'homme est arrivé sur la terre en trouvant tout ce que Dieu avait créé. L'homme est arrivé sur la terre en trouvant la végétation, en trouvant la lumière, en trouvant le jour, en trouvant la nuit. Donc les fondements que Dieu a posés lorsqu'il a créé toutes choses, l'homme est venu sur la terre pour créer. Bien aimé, ce n'est pas lorsque Adam est venu que Dieu a changé les choses pour que Adam soit dans une certaine aisance. Il était déjà dans une certaine aisance dans ce que Dieu a créé. Mais lorsque, Adam a péché, les choses ont été changées à cause du péché qui est entré sur la terre. Les animaux avec lesquels Adam pouvait vivre sont devenus des animaux sauvages. Les animaux où on pouvait avoir le loup avec la brebis jouer ensemble sont devenus chiens et chats à cause du péché. Mais lorsque l'homme est venu, fondamentalement, tout ce que Dieu avait créé était déjà là. Et Adam devait faire avec ce que Dieu avait mis à sa disposition. Adam ne pouvait pas créer autre chose, inventer autre chose pour gérer la situation dans laquelle Dieu l'avait mis. Et ainsi, tout homme bien-aimé est venu sur la terre en trouvant tout ce qu'il voit sous ses yeux. On est venu, nous avons trouvé la lumière. Et aujourd'hui, lorsque nous avons des projets à faire, on voit lorsqu'il y a certaines constructions à faire, bien-aimé, on est obligé de tenir compte du coucher du soleil. Lorsque on doit produire, lorsqu'on doit faire de l'élevage, on doit tenir compte du coucher du soleil. Dans tous ces éléments qui sont des fondements que Dieu a établis depuis la création, on est obligé de faire avec. On ne peut pas faire comme si le soleil n'existait pas, bien-aimé. On ne peut pas. S'il y a toutes ces précautions qui sont prises, c'est parce qu'on sait que c'est par rapport aux fondements que Dieu a posés peuvent avoir une influence sur nos changements, peuvent avoir une influence sur notre direction. Nous voyons lorsque il y a des personnes, quelquefois, qui ont le projet de voyager. En fonction du projet qu'ils ont à faire, là où ils vont, en fonction de ce qu'ils espèrent, de ce qu'ils attendent, ils vont juger s'il est mieux de voyager la nuit ou bien de voyager le jour. C'est-à-dire, par rapport à leur projet, ils sont obligés de tenir compte du jour et de la nuit s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur projet. Donc, on ne peut pas passer outre, bien-aimé. Et lorsque le calcul est fait, lorsque l'on ignore ce que Dieu a créé, bien-aimé, ça fausse tout le programme. Tout le programme change, bien-aimé. Vous voyez aujourd'hui comment, les poules sont réglées par rapport au coucher et au lever du soleil. Mais si vous les enfermez dans une salle et que vous fermez, vous ouvrez les rideaux, ils sont dans le noir alors qu'il fait jour, bien-aimé, elles vont être déréglées parce qu'elles fonctionnent par rapport à la lumière du jour. Donc, on ne peut pas faire abstraction des fondements que Dieu a posés. On peut faire semblant, bien-aimé, mais ça produira toujours quelque chose de mauvais. Mais si nous voulons aller jusqu'au bout, nous devons tenir compte du climat, notamment, comme j'ai donné l'exemple, pour celui qui veut aller faire la pêche en mer, il doit avoir une certaine notion, en tout cas, de la météo. Qu'est-ce que la météo prévoit afin que, comment dire, sa pêche soit bonne, afin que son travail soit efficace, il est obligé de tenir compte des fondements que Dieu a posés. Dans le livre de la Genèse, toujours, la Bible dit que, au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Alors, dans la Genèse, il est dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère, les deux s'attacheront et deviendront une seule chair. Avant que l'Église existe, avant que l'histoire de l'homme commence dans le sens où il va se multiplier, Dieu institue le mariage. Alors, le mariage qui fait partie l'un des fondements que Dieu a posé lorsqu'il a créé l'homme depuis la Genèse, bien-aimé. On ne peut pas faire aujourd'hui du mariage un instrument privé, un instrument exclusif dans lequel on va nous-mêmes établir nos règles. Les gens veulent se marier aujourd'hui et veulent vivre le mariage selon leurs propres convictions, avec leurs propres règles. Mais si Dieu a établi le mariage, c'est qu'il en a aussi établi le mode d'emploi. On ne peut pas prendre le mariage et vouloir établir notre propre mode d'emploi. Nous voyons aujourd'hui, on entend des plaintes que la société va mal, bien aimé. La société va mal pourquoi ? Ce n'est pas à cause des policiers, ce n'est pas à cause des hommes politiques. La société va mal parce que les familles refusent d'appliquer le mode d'emploi que Dieu a donné pour la famille. Les enfants traînent dehors à l'âge de 13 ans. Ils font, ils prennent des voies compliquées pendant que les parents sont chez eux. Les familles se divisent, ils divorcent parce que monsieur, pour quelques temps de plaisir, veut tromper sa femme. Et c'est toute la famille qui souffre parce qu'on refuse de vivre la famille selon les fondements que Dieu a posés. Bien-aimés, et ce n'est pas parce que nous avons jugé, ce n'est pas parce que, bien-aimés, on va juger que ma femme est trop mauvaise, alors il faut que je la trompe, bien-aimés, que Dieu va changer le fondement du mariage. Ce n'est pas parce que tu vas juger que ton mari ne t'aime pas assez et que tu refuses de te soumettre, que tu veux être à la hauteur de ton mari, que Dieu changera les fondements qu'il a posés pour le mariage, bien-aimé. Les fondements ont été posés et on ne peut pas le bouger. Le jour où Dieu change, bien-aimé, et branle ses fondements, alors c'est la fin de l'humanité. L'humanité est soutenue par la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa toutes choses par sa parole. Donc le mariage a pour fondement la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous entrons dans le mariage, nous devons le vivre conformément au fondement que Dieu a posé pour le mariage. Nous lisons Colossiens chapitre 3. Dès l'instant, bien-aimé, où on veut changer le règlement de Dieu, ça devient le désordre. La Bible dit que ceux qui ont cherché à se rebeller contre le Seigneur sont devenus fous. Parce qu'ils sont devenus fous, ils ont commencé à faire homme avec homme ce qu'on ne fait pas, femme avec femme ce qu'on ne fait pas. Ils ont changé l'utilisation de leur corps parce qu'ils ont refusé de se plier au fondement de Dieu. Et la Bible dit que Dieu les a livrés à leurs passions. Puisque vous êtes intelligents, puisque vous êtes forts, faites votre vie. Et voilà l'homme en cherchant à faire sa vie sans tenir compte des fondements de Dieu, c'est là où il a commencé à être homosexuel. C'est là où il a commencé à aller avoir des rapports, même avec des animaux, parce qu'il a refusé de se soumettre aux fondements que Dieu avait posés. La Bible dit dans Colossiens 3, au verset 18, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Voilà le fondement que Dieu donne pour la famille, dans lequel on retrouve une femme, dans lequel on retrouve un homme et des enfants. En tout cas, il y a cette union premièrement entre l'homme et la femme. Et Dieu va donner le rôle à chacun. Femme, que chacune soit soumise. Et la Bible dit dans Éphésiens qu'elle soit soumise comme elle est au Seigneur. Alors, avec l'interprétation du monde d'aujourd'hui, même au milieu chrétien, les femmes vont chercher à se cacher sous cette interprétation mondaine qui dit que la soumission, c'est l'esclavage. Dieu n'a jamais dit que c'était l'esclavage. Alors, on cherche à se l'interpréter pour ne pas se soumettre à l'homme bien-aimé. Or, lorsqu'il n'y a pas cette soumission, lorsque les rôles sont inversés, bien-aimé, un couple ne peut pas marcher comme Dieu l'a décrit, comme les fondements qui ont été posés, bien-aimé. La femme n'a pas été faite pour être au-dessus de l'homme. La femme n'a pas été créée dans sa capacité à gérer ce que l'homme a été appelé à faire. Et ce n'est pas une discrimination de Dieu. C'est tout simplement un ordre et une responsabilité dans le rôle de chacun. Maintenant, celle qui est spirituelle va réellement comprendre ce que le Seigneur attend d'elle. Et en faisant sa part, bien-aimée, voyons bien que la Bible nous dit, ce n'est pas au conditionnel. Ça ne veut pas dire « femme, sois soumise à condition que ton mari obéisse ». Non. « Femme, sois soumise », c'est-à-dire « c'est ta part ». C'est le fondement pour la femme, comment dire, dans le mariage. C'est d'être soumise à son mari. Et ce n'est pas parce que le mari est mauvais, bien-aimé, qu'un jour on va ouvrir la Bible et que ce verset aura changé. Dieu a posé ce fondement-là et on ne pourra pas le changer. Et beaucoup aujourd'hui, bien-aimé, on voit, j'ai vu un jour un témoignage, un couple qui était marié, qu'ils avaient des enfants. Soudain, un matin, l'homme se réveille, décide de quitter sa femme pour aller vivre avec un homme. Lui n'a pas manifesté son autorité. La femme était certainement habituée à tout faire. C'était elle le chef à la maison. Alors l'homme a préféré quitter sa femme pour aller avec un autre homme. Parce que les fondements posés par le Seigneur n'ont pas été respectés. La Bible dit « Hommes, aimez vos femmes ». Et dans Éphésiens, on ajoute « Comme Christ a aimé l'Église ». Christ a aimé l'Église jusqu'au point de se sacrifier pour l'Église, de se sacrifier pour nous alors que nous étions mauvais. Le sacrifice de l'agneau, la Bible dit, parle encore aujourd'hui, alors que ça nous arrive encore de faire des fautes. Ça nous arrive encore de haïr, ça nous arrive encore de faire du mal aux autres. Et malgré cela, la Bible dit que le sacrifice parle encore. Et les hommes disent, mais non, ma femme est trop impolie. Moi, je ne peux pas l'aimer. Il faut d'abord qu'elle change. Bien-aimé, ça, ce n'est pas dans la Bible. On n'a jamais dit d'aimer la femme à condition qu'elle soit soumise. On doit aimer la femme, un point c'est tout, parce que Dieu l'a dit. C'est le fondement que Dieu a posé, bien-aimé, pour l'homme. Et ce n'est pas parce que ta femme va même t'insulter devant les gens qu'un jour tu vas ouvrir la Bible et que les paroles auront changé, bien-aimé. Ça sera toujours la même parole. Le fondement ne peut pas être ébranlé. Le jour où on détruit les fondements bien-aimés, c'est qu'on décide de reconstruire. Or, les fondements de Dieu sont parfaits. Ils n'ont pas besoin d'être détruits pour être reconstruits. Ce sont des fondements éternels. Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Les fondements de Dieu ne passeront pas. On peut se rebeller, bien-aimés, parce que la vie que nous vivons aujourd'hui dans le mariage, peut-être ne nous convient pas. Bien-aimés, on peut lutter, on peut se rebeller. Dieu ne changera pas, bien-aimés, d'une seconde. Dieu ne changera rien de sa parole. Le Seigneur a dit, il n'y a pas un iota, pas un i qui passera de sa parole. On peut se rebeller, on peut faire le dur devant Dieu. En cherchant toutes les excuses que nous voulons, bien-aimés, ça ne changera pas le fondement que Dieu a posé une fois pour toutes. Marie, aimez vos femmes. Voilà le mode d'emploi. Père, n'irritez pas vos enfants. Or, nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, comment les parents négligent leurs enfants. Un enfant à 13 ans, 14 ans, même 15 ans, même 18 ans, alors que le lendemain, il a école, à 22 heures, il est encore dehors. Bien-aimé, ça, c'est une part d'irresponsabilité des parents. L'enfant n'est pas appelé à décider à la maison. La Bible dit, maudit soit le pays dont l'enfant est roi. Lorsque l'enfant domine dans une maison, bien-aimé, c'est la fin, comme on dit, la fin des carottes. Les enfants dominent parce que les parents refusent de prendre leurs responsabilités. Et comment voulons-nous que la société soit bonne, bien-aimée, si personne ne veut faire sa part? On peut avoir la conception de se dire, Moi, je pense que c'est comme ça que je dois éduquer les enfants. Bien-aimé, si c'est comme ça qu'on se dit, et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, on verra un jour le résultat. Les fondements ont été posés et on ne peut pas les changer. Père, n'irritez pas vos enfants. Il y a des parents aujourd'hui qui ne manifestent jamais d'amour envers les enfants. Ce n'est que la droiture, ce n'est que la correction. Et le côté amour, on le met de côté. Il y a des parents qui découragent sans arrêt leur enfant. J'ai vu un témoignage il y a deux jours. Une femme aujourd'hui, mais elle explique que lorsqu'elle était enfant, son beau-père, donc déjà le divorce, son beau-père la maudissait. Lui disait toujours, tu finiras toujours, tu seras une prostituée comme ta mère. Sans arrêt, il lui martelait cela. Bien-aimé, cet enfant a grandi en doutant d'elle, en ayant de la haine pour elle, en se voyant comme mauvaise, parce qu'on lui avait donné toutes ces paroles-là. Vous croyez qu'elle a fini comment, bien-aimée ? Elle a fini par être une prostituée. Père, n'irritez pas vos enfants. On voit dans les familles, bien-aimées, dans le monde, mais même quelquefois, même chez les chrétiens, des parents qui n'encouragent jamais leurs enfants. Et comment voulons-nous, bien-aimés, que la société soit en bonne marche ? La société, ce sont les familles qui la construisent. L'avenir de la société commence d'abord dans l'éducation des enfants, puisque les enfants que nous éduquons doivent être utiles à la société. Soit ils le seront, soit ils ne le seront pas. Parce que nous refusons de marcher conformément aux fondements que Dieu a établis. Nous pouvons ignorer, bien-aimé, dire que non, c'est un enfant, il faut quand même le gâter. Les enfants gâtés, bien-aimés, ne sont pas utiles à la société. Un enfant gâté finit par être comme le centre du monde. Il a toujours eu l'habitude d'avoir raison quand il était enfant. Alors comment, maintenant qu'il est adulte, il rencontre des confrontations, bien-aimés, il ne comprend pas. Il est totalement perdu. Il a toujours été mis à la première place à la maison. Et il cherchera toujours à écraser les autres. Dès l'instant où il aura une opposition, ça sera des crises. Ça sera des pleurs, ça sera de la rébellion. Parce qu'on refuse de se plier au fondement que Dieu a établi. Si nous faisons le choix aujourd'hui de bâtir une famille, on ne peut pas exclure ce que Dieu a donné pour la famille. On peut faire semblant, comme si ça n'existait pas. On peut faire semblant comme si on n'avait pas entendu. Bien-aimés, mais beaucoup aujourd'hui pleurent parce que les enfants sont devenus ingérables. Beaucoup pleurent parce que l'enfant a 13 ans. Il dit à sa mère, va voir ailleurs. Beaucoup pleurent aujourd'hui parce que les fondements ont été là et on n'a pas voulu respecter les fondements de Dieu. 1 Timothée chapitre 4. Nous sommes dans le monde, bien-aimés, et malheureusement, même quelquefois au milieu des chrétiens, beaucoup d'entre nous l'oublient. On voudrait vivre sur la terre comme si on était au paradis. Alors, beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, vivent dans la dépression nerveuse. On voit dans les hôpitaux psychiatriques, bien-aimés, quelquefois il n'y a plus de place. On construit d'autres bâtiments. On voit aujourd'hui dans les prisons comment ils sont surchargés. Parce qu'il n'y a pas assez de prisons, bien-aimés. On est sur la terre. Nous ne sommes pas au ciel. Et c'est une réalité que l'homme oublie. C'est une réalité que même quelquefois le chrétien oublie. Alors lorsqu'il rencontre des difficultés sur la terre, ça ne va plus. Le péché est entré sur la terre, bien-aimés. La Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Alors lorsque nous voyons des catastrophes naturelles, lorsque nous voyons de l'injustice au milieu des hommes, quelquefois ce sont même les chrétiens les premiers à se rebeller. Mais on ne peut pas changer le fondement, bien-aimés. Dieu avait des principes qui faisaient que si l'homme désobéissait eh bien, la création allait changer. La création allait tourner au vinaigre, bien-aimé. Et par rapport aux principes tels que Dieu les avait créés, c'est ce qui s'est passé, bien-aimé. Et ça, on ne peut pas le changer. Le péché agit. Et lorsque nous oublions que le péché agit, bien-aimé, c'est la rébellion contre Dieu. La Bible dit, 1 Timothée 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Amen. Dans la fin des temps, bien-aimés, il y aura des esprits séducteurs. Alors, dans les églises aujourd'hui, lorsque l'on prêche que les faux serviteurs, il y en a, lorsque on démontre par les œuvres d'une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ce sont les chrétiens premièrement qui se rebellent pour dire, mais vous vous jugez. Dans le fondement de Dieu, bien-aimé, il y a toute sa parole. Le fondement de Dieu ne repose pas sur une partie de la Bible, mais repose sur toute la Bible. La Bible nous avertit que dans la fin des temps, il y aura des esprits séducteurs, il y a des gens qui viendront avec des doctrines de démons, qui vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Alors lorsqu'on montre du doigt une religion qui interdit le mariage, tout de suite, on est extrémiste. Bien-aimé, qui peut être plus extrémiste que Jésus ? La Bible dit que Dieu a séparé la lumière des ténèbres pour ne pas qu'il y ait des flous. Alors lorsqu'on prêche sur ces choses-là, sur la fin des temps, les chrétiens disent, mais ils sont extrémistes. Et beaucoup ont des vies chrétiennes malheureuses parce qu'ils n'acceptent pas les fondements que Dieu a posés. Dieu a dit que dans la fin des temps, les choses seront comme ça, bien-aimés. Et lorsqu'on vit ces choses-là, c'est la rébellion, c'est demi-tour, c'est la fuite, c'est la dépression nerveuse. Un chrétien aujourd'hui, bien-aimé, la Bible dit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Celui qui est juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il n'est pas juste par ses efforts, il est juste parce que Jésus-Christ l'a rendu juste par le sacrifice de la croix. Et la Bible dit qu'un tel homme ne craint point les mauvaises nouvelles. Un chrétien ne craint point les mauvaises nouvelles, bien-aimé, ce n'est pas parce que il est plus spirituel que les autres. Il ne craint point les mauvaises nouvelles parce que Dieu a déjà tout annoncé. Lorsque nous voyons ces choses arriver, bien-aimés, nous devons nous souvenir que dans les fondements de Dieu, oui, il est dit que dans la fin des temps, eh bien, il y aura des faux serviteurs. Pourquoi renoncer à la foi? Moi, je ne peux pas aller dans les églises parce que tel pasteur est mauvais. Mais la Bible dit qu'il y a aussi des vrais pasteurs. Donc ce n'est pas parce que nous, nous croyons bien-aimés que tout est terminé, que réellement tout est terminé. Tant que Dieu a dit que c'est possible, bien-aimés, nous ne pouvons pas dire le contraire. Dans la fin des temps, et nous sommes dans cette fin des temps, bien-aimés, et nous devons comprendre que la situation telle que la Bible nous la relate dans le passage que nous avons lu, c'est une situation que nous devons prendre comme une réalité terrestre. Nous sommes sur la terre et cette réalité est vraie. Cette réalité doit devenir pour nous un véritable fondement, bien-aimé. Donc les choix que nous devons faire, la vie que nous devons mener, nous devons tenir compte des fondements que Dieu a posés. On ne peut pas faire notre vie chrétienne, bien-aimé, en faisant semblant que ça n'existe pas. La Bible nous parle des démons. La Bible nous parle des possessions démoniaques. Alors, on va faire notre vie chrétienne comme si les démons n'existaient pas, comme si le diable n'existait pas, alors que Dieu en parle. Et beaucoup sont bloqués dans leur vie parce qu'ils ont accepté le côté amour, ils ont accepté le côté miracle. Mais le côté démon manifestation, ça, non. On met de côté. La Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et la pierre principale de l'angle. On ne peut pas bâtir sans Jésus. Tout ce qu'on bâtit, bien aimé, en mettant Jésus de côté, ça ne tiendra pas. En mettre même un des versets que l'on considère comme les plus petits, de côté, bien aimé, ça ne tiendra pas. Beaucoup refusent de croire que les démons existent. Beaucoup refusent de croire que la délivrance existe. Et ils passent à côté d'une certaine vie que Dieu voudrait pour eux. Parce qu'ils ont fait semblant d'ignorer ce qui est écrit dans la Bible. Si nous avons choisi de marcher avec le Seigneur, bien-aimé, ou même si nous ne l'avons pas encore choisi, bien que nous avons déjà entendu la parole, mais que nous continuons aujourd'hui à marcher encore, selon les penchants de notre cœur, bien-aimé, ça ne changera pas la réalité de ce qui est écrit. Et un homme avisé, la Bible dit, avant de construire, il calcule à la dépense. Il évalue, bien-aimé. Celui qui forme un projet, il évalue d'abord. Et l'évaluation de ce projet doit être faite en fonction de la conjoncture actuelle. Si tu avais prévu 100 000 euros, bien-aimé, pour construire ta maison, en 2005, les 100 000 euros que tu avais prévus, bien-aimé, étaient conformes au prix du ciment en 2005, bien-aimé. Mais si toi, tu es toujours au prix de 2005, du prix du ciment, tu es en 2010, tu veux construire avec le prix de 2005, bien-aimé, tu vas construire la moitié. Si nous voulons aller de l'avant, on ne peut pas avancer sans tenir compte des fondements que Dieu a déjà établis. La Bible dit, 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Dans la fin des temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Bien-aimés, c'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La Bible nous demande d'être simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Et les gens aujourd'hui se livrent rapidement entre les mains des hommes. La Bible dit, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et le Seigneur explique, voilà la nature des gens dans la fin des temps. Ça ne veut pas dire, bien-aimé, qu'on va commencer à soupçonner tous les gens. Ça veut dire tout simplement que l'on doit tenir compte des avertissements du Seigneur. Voilà, nous sommes dans la fin des temps. Et dans notre marche avec le Seigneur, bien-aimé, on doit être prêt à faire face à tout ce genre de personnes. Tu es surpris parce que celui à qui tu faisais confiance, peut-être d'une manière charnelle, t'a trahi. Peut-être tu as eu besoin de lui aujourd'hui, il n'a pas répondu présent. Et c'est la déception. Et la déception qui nous emmène quelquefois à nous rebeller, à murmurer contre Dieu. Mais le Seigneur a dit que nous sommes dans la fin des temps, et dans la fin des temps, voilà comment seront les choses. La Bible dit dans Jérémie 17 que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? C'est Dieu seul qui sonde le cœur et le rein. Et dans les choix que nous faisons, dans les directions que nous voulons prendre, bien-aimés, nous aurons toujours affaire à des hommes. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire leur vie à côté sans tenir compte des uns et des autres. Mais le monde lui-même a été fait de manière à ce que les hommes aient tous besoin des uns des autres. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin du boulanger, bien-aimé, il ne mangera jamais de pain. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin du charcutier, il ne mangera jamais de charcuterie. Celui qui dit que lui, il n'a pas besoin des gens, bien-aimés, mais qu'il ne monte pas aussi dans l'avion. La vie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui montre qu'il y a un lien entre tous les secteurs d'activité. Nous avons besoin des gens qui construisent la route pour pouvoir voyager. Nous avons besoin des gens qui construisent les avions pour pouvoir voyager. Nous avons besoin des gens qui cultivent, des gens qui font de l'élevage pour pouvoir se nourrir. Et certains disent, non, moi je veux vivre de côté. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu n'a pas établi les choses comme ça. Et ceux qui cherchent aujourd'hui, bien-aimés, à vivre éloignés même de la société, beaucoup d'entre eux deviennent fous. Ceux qui cherchent à vivre isolés, vous voyez, bien-aimés, rien que des personnes qui ont été en prison pendant un nombre d'années, lorsqu'ils sortent, ils sont totalement perdus. Ils sont totalement perdus. Il y en a qui n'avaient jamais utilisé d'ordinateur. Il y en a qui n'ont pas vu comment le système de la poste a évolué. Et lorsqu'ils sortent, ils ont perdu, ils ont besoin d'un accompagnement des personnes du social pour pouvoir les orienter parce qu'ils sont totalement désorientés. Alors celui qui décide, bien-aimé, de ne pas se mélanger avec les autres, de dire que je n'ai besoin de personne, bien-aimé, il se trompe. Le monde est fait de manière que même si toi tu dis que tu n'as pas besoin, c'est-à-dire c'est la vie même qui va te l'imposer. Tu n'auras pas d'autre choix. Dans le lieu là où je travaille, on reçoit des personnes en situation de précarité, on reçoit des personnes des sans-abri. Ils ont la possibilité de se laver, de laver leurs vêtements, de prendre un petit déjeuner. Et il y a des personnes bien-aimées qui sont racistes. Alors il arrive là, il tombe sur un Africain pour le servir. Il fait un tour, deux tours, il revient. C'est dur pour demander, bien-aimé. Mais bien-aimé, il a très faim. Il vient finalement, il demande et il mange. La vie va l'imposer, bien-aimé. Et tous ceux qui cherchent à vivre loin de Dieu, la vie l'imposera un jour. Mais dans cette imposition, bien-aimé, l'homme reste toujours maître de son choix. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme libre. Celui qui ne voulait pas me demander du pain, bien-aimé, parce que ma couleur de peau ne lui plaisait pas, bien-aimé, il pouvait faire le dur, mais il allait finir par mourir de faim. Il n'a pas eu le choix. Il avait le choix de dire, bon, j'accepte parce que je n'ai pas le choix. Ou il avait le choix de dire, ben, je vais mourir comme ça. Et ce choix-là, bien-aimé, est présenté devant tout homme qui cherche à construire sans tenir compte des fondements de Dieu, un jour sera confronté à dire, là j'ai besoin de Dieu ou je préfère non continuer sans Dieu. Tout homme sera confronté à ce choix-là. Ceux qui ont voulu se confier dans l'homme, qui ont mis toute leur espérance dans le mariage. Le mariage, une déception, parce qu'il n'est pas vécu comme Dieu le voulait. Ils ont eu le choix de crier à Dieu, ou d'autres ont fait le choix de se suicider. D'autres ont fait le choix d'aller dans la prostitution. Tout homme sera confronté un jour au choix de suivre Dieu. Et ce n'est pas parce que le mariage a été un échec que Dieu changera ses fondements. Mais c'est à l'homme de s'humilier et de dire de toutes les manières, devant Dieu bien-aimé, nous sommes devant un mur. Dieu ne négocie rien de sa parole. Dieu ne va rien négocier. C'est à nous que revient le choix de dire, c'est Dieu qui a raison et je me plie. Ça va faire souffrir la chair. Mais ça sera un choix et une décision salutaire. On peut faire comme si Dieu n'existait pas. Mais un jour, on sera confronté à cela. Il y a des gens bien-aimés qui viennent dans les églises depuis des années, qui changent d'église à tout moment. parce qu'ils ont toujours quelque chose à reprocher. Là-bas, la musique est trop forte. Quand ils chantent, c'est trop fort. Ça me dérange. Là-bas, c'est toujours, on parle toujours que du péché. Là-bas, le pasteur ne m'a pas salué. Ils errent d'église en église en trouvant des excuses. Là-bas, il n'y a pas d'amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, bien-aimé, manifeste l'amour, toi. Le pasteur ne t'a pas salué. Toi, va le saluer. Toutes sortes d'excuses, bien-aimé, pour vivre loin des fondements que Dieu a établis. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu changera, bien-aimé. Le Seigneur a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ a été frappé à cause de nos péchés, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas changé sa loi, même pour son propre fils. Bien-aimé, nous croyons, bien-aimé, que Dieu va le changer pour nous. Il a frappé son fils à cause du péché. Il a montré l'exemple à travers son propre fils. Et aujourd'hui, Dieu va changer la loi. Simplement parce qu'un s'est énervé, a murmuré contre Dieu. Et Dieu a dit, bon, reviens, d'accord, on va s'arranger. Bien-aimé, lorsque le Seigneur a parlé à ce jeune homme riche, qui disait accomplir la loi depuis sa jeunesse, le Seigneur lui a dit, vends tous tes biens et suis-moi. La Bible dit que ce jeune homme-là s'en est retourné très triste parce qu'il avait beaucoup de richesses, qu'il n'était pas prêt à échanger pour suivre Dieu. Bien-aimé, vous ne voyez pas dans la Bible où Jésus-Christ lui a dit, reviens, bon, tu peux garder tes biens. Non, le Seigneur ne négocie pas. Il connaît sa valeur et il ne négocie pas. Et ce qui est le plus malheureux, bien-aimé, c'est que dans les fondements que Dieu a posés, c'était pour rendre l'homme heureux. Mais l'homme veut fonder son bonheur à partir de sa propre conception de la vie. Bien-aimé, c'est comme si aujourd'hui, la voiture qui a été créée pour fonctionner avec du gasoil, elle se rebelle et dit, non, moi, il faut me mettre du carburant, il faut me mettre de l'essence. Mais toi, tu as été créé pour fonctionner avec du gasoil. Tu réclames de l'essence. Bien-aimé, vous croyez que le moteur va vivre longtemps? Dieu qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, il dit, si tu veux bien vivre, voilà ma parole. Et toi, tu dis, non, moi, il faut que je fasse comme ça. Ou bien c'est celui qui a créé, qui connaît ce que nous avons besoin, ou bien c'est la voiture elle-même qui s'est créée toute seule et qui décide aussi avec quoi elle doit fonctionner. Si un enfant bien-aimé de 4 mois décidait de manger de la viande bien-aimée, je crois qu'il va s'étouffer rapidement. Mais si Dieu lui donne des parents, et passe à travers les parents, c'est pour l'emmener à une certaine autonomie. Ça veut dire que tant que l'enfant est enfant, il ne connaît pas ce qui est bon pour lui. L'enfant peut avoir le désir de jouer sur le bord de la fenêtre. Ça, c'est son désir, bien-aimé. Mais en tant que parent, on sait que ça, c'est dangereux pour lui. Alors comment Dieu, qui existe de génération en génération, qui n'a ni commencement ni fin, qui a créé l'homme, donne une direction à l'homme et l'homme dit non, je pense que c'est ça qui est bon. La Bible dit que c'est pour ça que les hommes sont devenus fous. On dit que les animaux doivent manger de l'herbe des champs. L'homme fait manger aux animaux de la viande et après on nous parle des histoires de la vache folle. Dès l'instant, bien-aimé, où on cherche à changer ce que Dieu a posé comme fondement, bien-aimé, tout va mal. Tout va très mal. Un appareil qui a été conçu pour fonctionner sur du 9 volts, bien-aimé, vous le branchez sur du 220 volts, je crois qu'on sait tous comment ça va finir. Il n'a pas été conçu pour être branché sur du 220 volts, il ne résistera pas. Mais l'homme veut être maître de sa vie, veut ignorer ce que Dieu a posé comme fondement, veut ignorer la parole de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean 15, au verset 5, « Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'un des fondements du Seigneur bien-aimé, c'est qu'il est souverain. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'homme veut être fort. Il fait ses projets en mettant Dieu de côté. Or, Dieu dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Celui qui cherche à faire de lui-même, bien-aimé, finira par tomber dans le trou que lui-même il a creusé. L'homme a voulu peut-être créer les armes pour se défendre. Mais cette même arme aujourd'hui est utilisée pour commettre des crimes, pour commettre des assassinats. L'homme a été développé dans la médecine pour pouvoir aider les gens. Mais il utilise cette même médecine pour faire des avortements. Il utilise cette même médecine pour faire du trafic de dons d'organes. Parce qu'il décide de mettre Dieu de côté. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en communion avec lui, pour qu'il soit en bonne santé. Mais l'homme préfère fumer ou bien se droguer pour détruire son corps. Dieu a manifesté un amour total. À cause de cet amour total, la justice aussi sera totale. Mais le Seigneur dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le temps du jugement n'est pas encore là. Nous sommes encore dans le temps de la grâce où Dieu appelle chacun à se convertir et à marcher avec lui. Mais chaque homme a été créé libre. Tu peux te rebeller contre Dieu, peut-être parce que la prière que tu as faite depuis des années, depuis des mois, n'est pas encore exaucée. Bien-aimé, ça ne changera pas que Dieu soit Dieu. Ce n'est pas en t'exauçant que Dieu va prouver qu'il est Dieu. Dieu a prouvé qu'il était Dieu lorsqu'il a tout créé. Même si toi, tu dis que tu as besoin de voir la gloire de Dieu, dans ta vie, Dieu te dira, regarde les nuages, ils sont encore là. Regarde le soleil brille encore, ça c'est la gloire de Dieu. Nous cherchons des miracles dans notre propre vie pour que Dieu justifie qu'il est Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a dit, les morts entendront ma parole et ils ressusciteront. C'est par la parole que Dieu a choisi de nous sauver. Ce n'est pas par les miracles que Dieu a choisi de nous sauver, c'est par sa parole. Et ça, on ne pourra pas le changer. Alors, bien-aimé, si on t'avait dit qu'en venant au Seigneur, tu allais recevoir des guérisons, tu allais recevoir telle ou telle chose, bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, lui, n'a jamais dit ça. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il n'est pas mort, bien-aimé, pour que on puisse faire des miracles, que les boiteux marchent, que les aveugles voient, bien-aimé. Non. Ça, c'est son problème à lui. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est à cause du péché et pour nous donner la vie éternelle. Nous lisons, pour clôturer, Luc chapitre 12. La Bible dit au verset 13, Luc 12, 13, « Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte ? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi, bien-aimé, qui fait ses récoltes, qui fait ses projets, sans tenir compte des fondements de Dieu. Négliger les fondements de Dieu, bien-aimé, c'est négliger Dieu lui-même. Cet homme avait fondé son avenir, avait fondé peut-être sa retraite sur sa récolte. Mais il avait oublié Dieu dans l'affaire. Et pendant qu'il faisait ses projets, la Bible dit que Dieu a dit, insensé, je vais reprendre ta vie aujourd'hui. Il a fait des récoltes sans tenir compte de Dieu. Il s'est reposé sur sa récolte sans tenir compte des fondements de Dieu. Alors, à quoi ça a servi tout cela, bien-aimé? À quoi ça sert de bâtir si Dieu n'est pas avec nous? À quoi ça sert d'aller si Dieu n'est pas avec nous? Bien-aimé, le fait que les choses fonctionnent comme on veut, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec nous. Il fait pleuvoir la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Lorsqu'il fait très chaud, qu'il y a eu la canicule, même les chrétiens en ont souffert. Lorsqu'il y a eu le tsunami, bien-aimé, ça n'a épargné personne. Ce n'est pas parce que les choses semblent aller comme on veut que Dieu est d'accord avec nous. Saül avait été rejeté. Dieu s'était retiré de lui, bien-aimé, mais il était encore roi. Pourtant, Dieu n'était pas avec lui. On peut bâtir, les choses semblent aller. Le monde nous encourage. Nos familles nous poussent. Mais Dieu n'est pas dans l'affaire, bien-aimé. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Dieu est avec nous. Détrompons-nous. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, 21, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Le Seigneur dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bâtir sans Dieu bien-aimé, c'est un échec. La gloire de l'homme, c'est de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir rencontrer le roi des rois. Tout ce que nous faisons bien-aimé, sans que le Seigneur soit au centre, sans que le Seigneur lui-même soit le fondement, c'est une course bien-aimé à perte. La Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 1er que tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui n'a été créé n'a été fait sans elle. La parole est le fondement de toute chose. Que l'homme l'accepte ou pas, bien-aimé, Dieu ne le changera pas pour personne. Dieu ne le changera pas. Nous avons aujourd'hui encore l'occasion, encore le choix de nous repentir et de consacrer nos vies entre les mains de Dieu. Mais nous avons aussi le choix de dire « je fais ma vie comme je veux ». Nous avons encore le choix de dire oui devant les hommes et de faire le contraire, bien-aimé dans la vie. Dieu nous a créés libres et Dieu nous aime. Et chaque jour que Dieu nous accorde de pouvoir entendre sa parole, c'est un jour où Dieu nous appelle encore à pouvoir nous approcher de lui. Il sonde le cœur et le rein, bien-aimé. On ne peut pas tromper Dieu. On peut se justifier comme on veut pour justifier notre péché, bien-aimé. Mais ça ne changera pas la réalité de la Bible qui est que le péché mène à la mort. S'il n'y avait pas le péché, Jésus-Christ ne serait pas venu. Jésus-Christ est venu à cause du péché. Il est venu mourir pour nous, mais il nous tend encore la main. Aujourd'hui, il nous tend encore la main ce matin, bien-aimé, pour nous offrir la vie éternelle. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, nous sommes là devant toi, Seigneur de gloire, à cause de ta parole. C'est vrai, la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, Seigneur. C'est vrai, Seigneur de gloire, qu'autrefois aussi, nous avions formé des projets, nous avions bâti, Seigneur de gloire, sans tenir compte de toi, sans tenir compte de tes fondements, Seigneur. Et nous avons vu combien nous avons été déçus. Seigneur, quelquefois aussi, lorsque les choses ont fonctionné, Seigneur, alors que nous étions dans le péché, Seigneur de gloire, en nous disant, mais si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi les choses vont si bien? Seigneur, mais tu as dit que dans la fin des temps, il y aura des pleurs et des grincements de dents. beaucoup, Seigneur de gloire, vont être surpris, Seigneur. Beaucoup vont être surpris, Seigneur de gloire. Car le jour du jugement, Seigneur, toi qui n'as pas épargné ton propre fils, tu n'épargneras personne. Seigneur, mais si nous sommes là encore devant toi, Seigneur, c'est à cause de ton amour, car malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, malgré les péchés que nous avons commis, Seigneur, aujourd'hui encore tu es prêt à nous pardonner. Car tu as déclaré dans ta parole que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Et nous sommes là ce matin encore, Seigneur, devant toi, Seigneur, afin de renoncer, Seigneur de gloire, à tout ce que nous avons bâti sans toi. De renoncer, Seigneur de gloire, à tout ce que nous avons fondé sans toi. Et de tout livrer entre tes saintes mains, afin de nous considérer, Seigneur, comme de simples gestionnaires de tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est vrai, nous avions trompé les hommes, Seigneur, mais nous ne pouvons pas te tromper, toi. Tu vois toutes choses, tu connais toutes choses. Seigneur, aide-nous ce matin encore à accepter ton amour, Seigneur, à reconnaître ton amour, car tu es Dieu au-dessus de tout. Oui, la Bible dit, Seigneur, que ce n'est pas par la colère de l'homme que ta justice peut s'accomplir, Seigneur. Tu ne changeras pas tes fondements, tu ne changeras pas tes principes, Seigneur de gloire, à cause de la rébellion des hommes. Tu es Dieu et les fondements que tu as posés sont véritables et éternels. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous y soumettre totalement, entièrement, Seigneur. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, car c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Et tu sais mieux que nous tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous avons longtemps cru que par l'argent, on pouvait être heureux, Seigneur. Mais on voit, Seigneur de gloire, même des milliardaires se suicider. On avait cru, Seigneur de gloire, que dans le libertinage, dans une vie de débauche, Seigneur de gloire, on pouvait être heureux. Mais nous voyons, Seigneur de gloire, les avortements se multiplier. Nous voyons, Seigneur de gloire, des enfants délaissés, Seigneur. Nous voyons, Seigneur de gloire, comment le mal se multiplie autour de nous, Seigneur, parce que tes fondements ne sont pas respectés, Seigneur. Nous avons été déçus, Seigneur de gloire, par la vie, déçus par les hommes. Parce que nous ne sommes pas reposés sur toi, qui ne déçoit jamais. Seigneur, nous avions compté sur nos propres forces, Seigneur. Des hommes forts se sont levés, Seigneur de gloire. Mais devant la guerre, ils ont été incapables de protéger leur famille. Des hommes forts se sont levés, Seigneur. Ils ont pris en otage des peuples entiers, Seigneur. Ils ont dirigé comme de véritables dictateurs. Seigneur, mais ils sont dans le tombeau aujourd'hui. Alors à quoi ça a servi, Seigneur de gloire? De rechercher la gloire. De rechercher le pouvoir et la richesse, Seigneur. Pour finir dans l'alcoolisme. Pour finir drogué, Seigneur. Nous voyons, Seigneur de gloire, comme le monde nous parle, encore à travers l'exemple de ce boxeur, Seigneur, Mohamed Ali, Seigneur de gloire, qui était au-dessus de tout, meilleur boxeur de tous les temps, Seigneur. Des années de gloire devant les hommes, pour passer encore le double d'années, Seigneur, dans la maladie. Dans la faiblesse de la chair, Seigneur. Alors toutes ces années de gloire ont servi à quoi? À quoi ça sert, Seigneur de gloire, de vivre loin de toi, de vivre sans toi, Seigneur, si c'est pour finir une éternité en enfer? À quoi ça sert, Seigneur? Seigneur, renouvelle notre intelligence ce matin. Ouvre-nous les yeux, Seigneur de gloire, que nous puissions réaliser combien, Seigneur de gloire, la vie sur terre, comme la Bible dit, Seigneur de gloire, que nous sommes comme l'herbe des champs, Seigneur de gloire, qui sèche, Seigneur. Les hommes forts sont venus avant nous, Seigneur. Et les cimetières entiers sont remplis d'hommes forts. Alors qu'il y a des hommes, Seigneur, de gloire, dans les campagnes, dans les brousses, Seigneur, qui vivent heureux jusqu'à 90 ans, jusqu'à 110 ans, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Seigneur de gloire. Car bien souvent nous sommes attachés, Seigneur, aux richesses de la terre, au pouvoir, Seigneur de gloire. Mais comme Salomon a dit, Seigneur de gloire, tout cela est vanité et poursuite du vent. Il a été riche. Il a eu plusieurs femmes. Tout ce que ses yeux ont désiré, il ne les a point privés. Mais il avait réalisé, Seigneur de gloire, que tout cela était inutile et poursuite du vent. Seigneur, aide-nous à réaliser que nous sommes de passage sur cette terre, Seigneur. Le ciel et la terre passeront, et tes paroles ne passeront pas. Aide-nous, Seigneur de gloire, ce matin à comprendre la raison pour laquelle tu nous as sauvés, Seigneur. La raison pour laquelle tu nous as appelés. Dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous ne voulons plus marcher, Seigneur de gloire, comme des personnes qui refusent de se soumettre à tes fondements, à diriger nos familles d'une manière traditionnelle, Seigneur, sans tenir compte de la parole, à diriger nos familles d'une manière personnelle, sans tenir compte de tes fondements, Seigneur, à gérer notre vie de couple, Seigneur de gloire, selon, Seigneur de gloire, les traditions africaines, les traditions européennes, asiatiques, Seigneur de gloire, car tout cela c'est zéro. Les véritables fondements sont dans ta parole, Seigneur. Comme tu as dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu nous as donné, Seigneur de gloire, la recette pour avoir une vie de paix, une vie de bonheur, Seigneur. C'est de tenir compte des fondements que tu as posés. Car c'est toi qui es l'auteur de la vie. Et ce matin, Seigneur de gloire, nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour ta fidélité, toi qui ne changes pas, qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes promesses sont véritables, tes fondements sont éternels, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ouvre-nous les yeux ce matin, Seigneur. Restaure notre foi, la foi en ta parole, Seigneur, car la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Alléluia.